Les femmes ont une sexualité de service et elles ne le savent pas. Je suis Ellie, experte du prix du sexe. Bienvenue dans le podcast Cœur de Michto, la référence féministe sur l'égalité dans les relations amoureuses. Je partage le regard surprenant que la prostitution m'a donné sur l'hétérosexualité, mais aussi les leçons incroyables qu'elle m'a enseignées pour raquer le patriarcat. Si tu es prête à pimper ta vie amoureuse, on y va. Bienvenue dans Cœur de Michto. Allez, go pour le quatrième épisode sur le livre de Louise Brévin, Pute n'est pas un projet d'avenir, qui est un livre qui m'a passionnée. Livre écrit par une collègue qui raconte son expérience de prostituée, qui est un livre très riche, très très riche, avec beaucoup d'émotions différentes, beaucoup de choses que je trouve très politiques. Et donc le dernier épisode, j'espère, je crois que j'aurais passé tout ce que j'avais à dire sur le bouquin au bout de ce quatrième épisode, j'espère, parce que sinon, là, je pense 5 épisodes, ce serait trop. Bref, on reprend, continue de parler des thunes et des clients. Il y a des anecdotes qui sont à hurler de rire avec des clients de l'espace. Et c'était ça aussi le sel de la confrérie des putes, c'est quand on revenait, il m'est arrivé un truc qu'il faut que je vous raconte. Expérience sociologique toujours dingue. Bon, il y a beaucoup de clients qui sont juste inintéressants, chiants, pénibles, etc. Il y en a qui sont extraordinaires de dinguerie. Il y en a qui sont très touchants, elle en parle aussi. Alors là, elle a tout un passage, un chapitre qui s'appelle Thérapute, où elle parle du rapport très émotionnel, en fait. Et je pense que la thérapeute, c'est la girlfriend experience. Je l'assimile à ça. Pour moi, la thérapeute, c'est le travail émotionnel qu'on met dans la girlfriend experience. Et les nanas qui ont pas envie de se taper ce taf de thérapeute, elles font du pornstar experience. En mode genre, écoute, tu vas pas me raconter ta life, chouiner dans mes seins, etc. On fait une levrette et c'est bon, quoi. Enfin, elle décrit un personnage, effectivement, son personnage de masseuse, Alma, est très girlfriend experience. Dans l'émotionnel, l'accueil de la vulnérabilité de l'autre. Et donc, du coup, elle parle aussi de certains... Elle parle de ses clients touchants. Et il y en a toujours. Il y en a toujours. Il y a de tout. Hein. Malheureusement, pas la majorité. La plupart sont des gens pas intéressants, voire des gros connards. Mais il y a quelques clients choux qui nous touchent et elle en parle. Elle parle aussi des clients qui disent être des fans de Cuny et qui sont les pires de Cuny. J'en parlais aussi. Hein. Je disais, sachez que les grands fans de Cuny sont souvent les pires. Donc là, il y a un texte où je me dis, j'ai marqué... dans la marge, true, avec un point d'exclamation, c'est vrai, true again, avec mon super accent. La plupart du temps, quand un homme me dit qu'il veut me faire un cuni, parce qu'il adore donner du plaisir à une femme, j'entends plutôt, je voudrais te brouter le berlingot parce que c'est moi que ça excite et je me tamponne pas mal de savoir si ce que je fais te plaît ou pas. Et après, elle écrit, post-scriptum, en lisant ceci, 70% des lecteurs masculins se diront, ouf, je ne suis pas concernée par cette situation. Si, mes chéris, vous l'êtes probablement. C'est terrible, mais effectivement, cette société sexiste a produit une fournée immense de gars très nuls au pieu, même ceux qui pensent qu'ils sont bons au pieu, malheureusement. Bon, bref. Bon, à note, le porno est conçu pour être excitant, pas éducatif. Je valide. Je suis full d'accord. Et donc, après, bon, on va passer sur le rapport à l'argent, où elle donne plein d'anecdotes, de messages, de trucs sur le rapport à la thune, qui pour moi se rapproche un peu, effectivement, de... Bon, elle décortique pas comme ça, mais de l'épisode sur la grille tarifaire. Donc, déjà, elle balance des propositions qui sont indécentes. Des propositions où le prix est dérisoire par rapport à ce que c'est réellement. Et donc, du coup, elle, en tant que pute expérimentée, les refuse. Mais c'est vrai que quand on voit le truc, on dit qu'il y a quelqu'un qui connaît pas la grille tarifaire pourrait se dire ah ouais, bon plan. Donc je vais parler un peu de ces moments-là, ce rapport à ce sexe low cost. Bon, déjà, elle décrit des gars qui lui font des messages où en fait elle fait la traduction de ce que ça veut dire. Ce passage est vraiment jubilatoire et si vous n'achetez pas le bouquin, vous n'y aurez pas accès parce que je vais pas vous le lire, parce qu'il faut acheter le bouquin de Louise Brévin, où elle décrit voilà un gars qui est tout dégoulinant, qui décrit un truc qui pourrait être mignon mais qui en langage de pute l'est beaucoup moins, et elle finit en disant ce mec. Et ce genre de mec est un enfer, il a le budget pour se payer une chambre d'hôtel avec les WC sur le palier, mais veut exactement le même service qu'une suite au Ritz. Et j'ai noté dans la marge, ils ont souvent pas les moyens de leurs attentes de travail infini pour leur goût du sur-mesure. Et ce que je trouve très drôle, c'est que juste après, des pages d'après, elle parle d'un client qui est extrêmement riche, qui a une richesse qui est indécente, où vraiment, pour moi, ça me rappelle ces clients qui étaient vraiment sur riches et où vraiment on se dit, il y a des gens qui ont trop d'argent. Elle décrit comment, malgré cette immense richesse, le mec est impuissant parce qu'il a 75 ans. Et elle écrit, à 75 ans, il y a des choses que nulle richesse ne peut plus offrir. Et du coup, j'ai noté dans la marge, ceux-là aussi n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Et le bouquin est truffé de ces clients qui n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Donc, par exemple, les clients amoureux qui se pointent avec une boîte de chocolat à 6€ et qui comprennent pas qu'elle ne craque pas complètement pour eux. Non, mais d'où tu crois que tes 6 balles là sont, sont suffisants pour t'acheter mon amour, pour t'acheter ce truc si intime. Et c'est ce client, enfin ce client, ce non-client, hein, cette annonce où il demande un truc où elle n'ira pas. Ce gars qui essaye de faire baisser la note en expliquant à quel point ce serait un plaisir pour elle, en fait, de bosser pour lui. Et où il fait baisser le tarif au fur et à mesure en faisant des. Et donc, du coup, ça ferait ça, et puis ça ferait ça, et ça ferait ça. Donc, si mes calculs sont exacts, votre prestation me coûterait environ 35 euros, est-ce que c'est bon pour vous? Et elle lui répond, pour ce prix-là, vous aurez accès au fauteuil massant dans la salle d'attente de l'aéroport Charles de Gaulle, bien à vous. Ou encore ce gars qui la contacte en lui disant qu'il cherche une vendeuse de mise en rayon et de conseil à un client dans sa boutique de prêt-à-porter et que du coup faudrait le sucer un peu de temps en temps, voilà, de temps en temps, et que ce serait du 1 600 euros net par mois. Est-ce qu'elle serait intéressée? Et dire, waouh, trop bien, un boulot à 1 600 euros, 1 600 euros net où je fais du temps plein et en plus je le suce dans l'arrière-boutique de temps en temps. Et, du coup, dans la marge du livre, j'ai fait le calcul de ce que ça vaut réellement, un truc comme ça, et dire que rien que pour le taf sexuel, ça vaudrait 4 000 euros par mois, et donc du coup, en plus, il faudrait rajouter le taf de vendeuse, donc que c'est très très loin, ces 4 000 euros par mois, en plus du salaire normal des 1 600 euros qu'ils proposent, et que malheureusement, en fait, les meufs qui n'ont pas la grille tarifaire, peut-être que dans le tas, il y en a qui se disent, ah bah oui, c'est une affaire, c'est tellement difficile de trouver un travail, et du coup, 1 600 euros, incroyable, c'est plus que le SMIC. Alors pareil, dans la veine, elle décrit quelqu'un qui lui propose un contrat ultra exclusif, de gars qui a des attentes délirantes où elle est censée être disponible 100% du temps. Alors le gars bosse notamment à Dubaï, apparemment c'est l'endroit où ils ont trop d'argent, et où il fait une liste de trucs, c'est l'enfer, et donc du coup, il propose un salaire de 4 000 euros net. Et c'est vrai que du coup, donc bien sûr, elle ne répond pas à l'annonce parce que bon, il a des conditions qui sont intenables. Et je dis, mais en fait, dans la marge, j'écris, mais c'est encore là, le mec n'a pas les moyens de son ambition parce qu'en fait, ce job cauchemardesque. Si une nana est capable, a les possibilités de dissocier à ce point, si je fais un rapport. Une corrélation entre ce que ça vaut sur le marché du travail et ce qu'il propose. En fait, c'est un taf qui pourrait pas être à moins de 30 000 euros par mois. Tellement ce qu'il demande est demandant, représente du temps, de l'exclusivité, etc. Et représente, enfin. Et c'est ça que je trouve vachement intéressant. Alors, elle donne pas ce que ça vaut réellement, elle dit juste que bah, c'est hors de question. Mais la question de la grille tarifaire, elle nous ramène toujours à ce truc de se rendre compte que les mecs n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Elle décrit aussi, alors, elle a un gars, quand elle décrit ce gars, moi, ça me rappelle fortement la vibe du masseur pervers dont je raconte l'histoire dans l'épisode 4, qui est un fétichiste de l'intimité, donc des gars extrêmement dangereux, et où effectivement ses warnings de suite s'allument quand elle voit le truc arriver. Je sais plus pourquoi dans le bouquin elle va quand même au rendez-vous. Elle est pas très enjouée, mais elle y va quand même. Elle dit qu'elle y arrive, la mort dans l'âme. Et c'est un chapitre où il y a plusieurs pages où elle fait de la pédagogie, et c'est incroyable. En fait, le gars explique que sa meuf n'a pas assez envie. Elle lui explique pourquoi c'est impossible que sa meuf ait suffisamment envie vu la façon dont il se comporte. Et elle lui explique vraiment d'une façon qui est ultra pédagogique. Très belle discussion. Franchement, je la trouve incroyable, cette discussion. Je pense que c'est une discussion qu'il faudrait lire. Ces pages-là, il faudrait les lire pour faire de l'éducation au mec. Il faudrait faire. Enfin, elle est brillante. Genre vraiment, elle explique vraiment extrêmement bien. Et elle a l'espoir qu'il va comprendre, en fait. Et elle prend le temps de lui expliquer. Et bah, comme ce livre, il y a aussi. Enfin, ça fait partie des trucs à la fois rageants, mais très drôles. Il est complètement con, en fait. Il est complètement con. Et elle le décrit en disant, le gars a l'air quand même d'être. Enfin, il devrait comprendre, il a le cerveau pour, et en fait, il est tellement stupide. Et ça finit en mode genre avec des punchlines où le gars, il sort une débilité. Régulièrement, elle écrit des petites. Alors, moi, c'est des trucs qui me faisaient super rire. Tous les trucs où intérieurement, elle essaie de garder son calme, tu vois, mais elle a à l'intérieur, ça. J'aurais aimé dire qu'il était bête à bouffer du foin si ce n'eût pas été une insulte pour le foin. Je trouve ça très très drôle. Et donc quand il ressort un truc encore qui montre à quel point il est débile et médiocre, etc., elle dit, allez, l'univers, un petit geste. Tu constates comme moi que ce mec est une plaie. Fais-lui croiser la route d'un bus qui n'aurait plus de frein. Voilà, je la trouve très drôle. Je la trouve très très drôle. En fait, elle rend cet épisode où le gars, c'est juste médiocre, quoi. Le gars est nul. Et elle, en face, elle est brillante. Et elle sort ses punchlines comme ça qui sont incroyables. Donc ce chapitre-là, comment il s'appelle ce chapitre? Je crois que c'est sans doute mon chapitre préféré. Le chapitre Les clients. Je sais que je vous plais, le petit. Il est mais incroyable ce passage-là. Il est grandiose, vraiment grandiose. Et je ne vous le lirai pas non plus parce qu'il fait plusieurs pages et parce qu'il faut lire, il faut acheter son bouquin pour mériter de lire ses pages. Alors on a l'expérience commune aussi d'avoir un client qui débarque en nous parlant de notre vrai prénom, énorme intrusion dans l'intimité, énorme red flag et donc du coup elle a un client comme ça a été mon cas aussi, et qui en plus se présente comme étant un gentleman, fou amoureux d'elle quoi, et qui se rend pas compte à quel point il dépasse les limites d'une façon abusée. Elle a aussi des messages, alors ça je trouve ça drôle, quand on est jeune pute, des fois on sait pas trop encore comment fonctionne le truc. truc et donc on a une sorte de naïveté, hein, on lit le truc, on y croit. Et avec le temps, on finit par se dire, ok, ça, ce genre de message, on finit par avoir le radar pour se rendre compte qu'en fait, il y a des messages écrits par des mecs qui sont passés pour des meufs. Et on finit par avoir les codes pour dire, bah non, ça, c'est pas une meuf, c'est un client. C'est un fantasmeur, enfin souvent c'est pas des clients, c'est des fantasmeurs qui s'inventent une vie et qui donc écrivent au nom d'une meuf. Donc par exemple, il y a une fake dominatrice qui lui écrit pour lui filer son soumis. Bon, ça on en a eu plein. On en a eu plein, enfin franchement, si une meuf que vous ne connaissez pas vous contacte pour vous filer son soumis, ce n'est pas une dominatrice, c'est un soumis, c'est un fantasmeur qui va se faire du téléphone rose avec vous, qui se branle en même temps qu'il vous écrit. Ou alors, c'est des fois, il y a des messages de mecs qui sont passés pour des collègues femmes, pour nous proposer des plans à plusieurs. Ah oui, je vais revenir sur le passage « Cher collègue » qui est la toute fin, que je trouve vraiment si doux, si beau et... plein de sororité, juste des phrases que j'ai soulignées. N'ayez pas peur de mettre des barrières, connaissez votre valeur, ne prenez jamais de risques sanitaires. C'est une activité aliénante, soyez solide psychologiquement, ne vous laissez pas impressionner par l'argent. Chaque fois, ah, je trouve ça si beau, chaque fois que vous quitterez un client qui n'aura rien vu d'autre en vous qu'un objet sexuel, prenez le temps de vous rappeler ce que vous êtes dans vos valeurs et dans votre personnalité. Je parle aussi des meufs qui bossent en ligne et qui disent, et a dit, méfiez-vous comme de la peste du viol cérébral. Effectivement, dépasser les limites de l'autre, c'est pas que dans le physique, hein, ça peut être aussi dans le mental. Et il y a des prédateurs en ligne dont le but est de faire du viol mental, hein. Il vaut parfois mieux annuler un client et perdre une centaine d'euros qu'honorer le rendez-vous puis devoir arrêter 3 semaines écœuré et meurtri. Si votre voix intérieure se méfie, n'y allez pas. Si une proposition vous paraît trop belle pour être vraie, ne réfléchissez pas, elle l'est. C'est le paradoxe du soi-disant argent facile. Dans la puterie, il n'y a jamais rien de gratuit. N'essayez pas de prouver des choses au monde avant de vous les être prouvées à vous-même. Car croyez-moi, sur parole, le monde s'en tamponne le cul. Enfin, ne perdez jamais de vue ces deux règles essentielles. Si pute il doit y avoir, alors ça doit être un tremplin, un trait d'union, un moyen temporaire. La puterie n'est valable que sous deux conditions. C'est une question de survie et c'est au service d'un plan. Comme elle le dit, pute n'est pas un projet d'avenir. Vraiment oui. Oui, je suis full d'accord avec ça. Et je vais finir avec la petite note que j'ai marquée à la fin du livre, à la toute fin après avoir tout lu. C'est un métier qui tanne en quelques années. Celles qui ont le choix attendent la porte de sortie et la saisissent. Celles qui n'ont pas le choix payent le prix de la dissociation à outrance. Quelques exceptionnels tiennent la durée. Des athlètes de la dissociation avec une hygiène de vie impeccable. Comme Louise, j'ai tenu 3 ans avant le burn-out. L'humanité des rares clients n'a pas suffi. Les hommes sont sociabilisés à être cons et connards. On est exposé à trop de médiocrité et de violence pour avoir du sens sur le long terme. Donc voilà, je finis ce bouquin que j'ai trouvé très pertinent, avec beaucoup de nuances. Je trouve qu'on traite la prostitution avec si peu de nuances dans les médias, alors souvent pour faire peur ou pour jouer sur cette fascination, sur ce glauque, sur ce graveleux, sur ce croustillant. Et je trouvais que ce livre était vraiment ne tombait dans aucun des travers. C'était ni du glamour, ni du misérabilisme, ni enfin tout était nuancé. C'est très riche, tous ces chapitres-là permettent de se faire une idée qui pour le coup a tellement de nuances. Et voilà, j'ai beaucoup 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 aimé ce livre. Et lisez-le, achetez-le, vraiment super livre. Et Louise Brévin, si tu passes par là, passe me dire un bonjour, vraiment que je sache au final, est-ce que tu étais dans la confrérie des putes ou pas, est-ce qu'on s'est connu par pseudo interposé ou pas. Je serais ravie de discuter avec toi et j'ai vraiment énormément aimé ce livre que je trouve si bien écrit, si drôle, vraiment ça m'a fait hurler de rire certains passages, et si touchant. Et voilà, merci, un immense immense merci à Louise Brévin pour ce très très beau livre. Ce partenariat n'est pas du tout rémunéré, c'est pas un partenariat, c'est un partenariat sauvage. J'ai décidé que j'allais consacrer du temps à parler de ce livre. Je ne suis pas rémunérée pour ça. Et si vous êtes là, c'est que sans doute vous aimez mon travail. Si vous aimez mon travail, vous allez aimer celui de Louise Brévin, vraiment. Si tu veux en savoir plus sur l'égalité amoureuse, j'ai une surprise pour toi. J'anime des ateliers sur ce sujet avec des outils pratiques, concrets et efficaces. Je t'offre l'accès gratuit à l'atelier Obtenir plus en faisant moins, l'atelier avec tous les secrets de Michetonneuse pour obtenir l'égalité amoureuse. C'est une vidéo d'1 heure bourrée d'astuces pour mettre ton mec au taf sans avoir besoin de passer des heures à lui faire de la pédagogie. Pour recevoir cet atelier gratuit, rendez-vous sur mon site cœurdemicheto.com. Je suis Ellie, je t'envoie du love et te dis à bientôt.